samedi printanier et très bienvenue à votre magazine radio in situ consacré aux arts visuels et aux disciplines connexes toutes tendances. Au micro, Chantal Lheureux à l'animation et à la réalisation de ce rendez-vous radiophonique hebdomadaire qui se veut exploratoire, inspiré, créatif, soutenu chaque semaine par notre dévoué technicien à la mise en onde, Robert Loca, donc aussi assigné au montage, au volet promotionnel, à la chronique occasionnelle. Merci donc à Robert Loca et participeront aujourd'hui à l'émission les chroniqueurs Pierre Archambault et Lila Maître. Et comme à chaque semaine, je vous invite à visiter les différentes plateformes de l'émission sur Facebook et WordPress, Magazine In Situ, pour un complément d'information. Beau temps en ce printemps pour aller visiter des expositions accessibles en ce mois de mai. Alors, Pierre Archambault nous fera plusieurs suggestions d'expositions qu'il a vues pour nous. Merci à Pierre. Après cette chanson printanière de Pink Martini. Non, ce n'est pas une chanson qui date des années 40, c'est vraiment une chanson quand même assez récente. Une chanson qui nous incite à sortir de notre marasme actuel que nous devons subir en période de pandémie. Alors, bonne pause musicale.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, puis je fume.
Alors, Pierre, est-ce qu'on te joint? Est-ce que nos problèmes techniques sont réglés, Pierre?
Je suis là, Chantal.
Bon, enfin. Alors, Pierre, tu as rendu. J'apprécie énormément ta participation à l'émission. Beau samedi ensoleillé. J'espère que tu vas bien.
Oui, ça va. Je vais coucher tard, mais ça va.
Oui, bon. Alors, Pierre, tu t'es rendu pour nous à la Maison de la culture Le Plateau Mont-Royal, à la Maison de la culture Claude Léveillé, à l'Arsenal, à la Galerie Pierre-François Ouellette. Merci beaucoup de ta tournée. Pour nous faire des recommandations, je suppose.
Bien sûr. C'était vraiment un plaisir de visiter les 8 expositions que je propose.
OK, en d'accord.
En espérant qu'il y aura autant de joie chez les visiteurs d'aller dans ces galeries qui, malgré la pandémie, nous offrent beauté et réflexion sur la condition humaine.
Oui.
Alors, je débute avec la galerie Simon Blais,
oui,
qui est située au 5420 boulevard Saint-Laurent, qui présente les œuvres influencées par la pandémie de Michel Goulet, figure marquante de sa génération en sculpture, qui a réalisé 70 œuvres publiques ici et en Europe. Alors, ce corpus présenté s'articule sur un vocabulaire de noms dont l'épellation est la même en français et en anglais. Et sur le mur adjacent à l'entrée, il est couvert de ballons gonflés, tels que ceux qu'on trouve dans les fêtes d'enfants. Et chacun a une couleur vive sur laquelle est perforé un mot. Évidemment, ce sont de faux ballons en matière synthétique. Et ça implique un désir contagieux de faire la fête que beaucoup de monde ont en ce moment. Et sur le mur d'en face sont déposées des dizaines de branches recouvertes de vinyle noir, dont la longueur est de 2 mètres, en référence bien sûr à la distanciation sociale exigée depuis un an. Et sur la cloison intermédiaire de la galerie, il y a un grand cercle constitué de logos, de blocs logos, Lego, multicolores qui forment le mot autour du monde. Mais c'est pas évident de déchiffrer parce que souvent les données sont pas toujours claires. Dans le corridor, il y a un ensemble de boîtiers entomologiques qui ressemblent un peu à des cabinets de curiosité où sont juxtaposés 16 menus objets tels que des papillons, lames de rasoir, arachides, fils, cailloux, autant de souvenirs accumulés de moments de vie. Et Michel Goulet jette un regard à la fois ludique et poétique sur l'humanité qui traverse en ce moment l'épreuve qu'on connaît et ça est épreuve qui modifie nos comportements. Malheureusement, l'expo se termine aujourd'hui même.
Mais
à
oui.
17h, donc il faut se précipiter si on veut voir cette belle exposition.
Une exposition, Pierre, explosive de couleurs que j'ai vue moi-même aussi à la Galerie Simon Blais.
Alors, on se déplace à la Maison de la culture Claude Léveillé,
oui,
située au 911 rue Jean Talon, tout près de la rue Saint-Hubert, pour une exposition des toiles d'Alexis Lavoie, qui s'intéresse à la nature humaine sous le vocable de décadence. Alors, ça regroupe 25 peintures. Au premier coup d'œil, une joie qui se dégage de ces multiples couleurs harmonieuses. Mais quand on regarde de plus près, on voit des corps nus amputés de leurs membres. Ça a pas cependant un aspect morbide et dispersés ici et là sur la toile des chapeaux de fête, des gâteaux de fête, ainsi que des animaux comme un porc ou une carcasse de poisson, ainsi que des têtes de mort. Alors, c'est compositions qui sont quand même très aérées, dont les dégradés de couleurs sont très réussis,
oui,
nous font voyager dans un univers fantaisiste parfois inquiétant qui baigne dans une douceur heureusement apaisante. On peut voir cette toile d'Alexis Lavoie jusqu'au 30 mai au 911 rue Jean Talon. Et on se déplace ensuite à la Maison de la culture du Plateau Mont-Royal qui nous offre 6 grands tableaux de Jean-Sébastien Denis.
Oui.
Alors, cette série a débuté il y a 7 ans et juxtapose la ligne, la forme et le geste avec une maîtrise exceptionnelle d'équilibre dans ce jeu de forme un peu casse-gueule, je dirais, pour tout peintre qui s'y connaît. Alors, il y a des formes très structurées, oui, d'influence architecturale qui se superposent ou se jouxent à des taches ou des coups de pinceau en dégradé.
Mmh.
Alors ici, on peut dire que la raison domine l'émotion de manière métaphorique, sans figuration. Jean-Sébastien Denis montre une réflexion mature sur son métier par le biais de ses tableaux élaborés sur une période de 7 ans. Et l'exposition se poursuit jusqu'au 30 mai. Oui. Alors, un peu plus loin, à l'est, galerie Pierre F. Ouellette, qui est au 963 Rachel Est. Alors là, il y a un artiste de 40 ans que je ne connaissais pas, qui se nomme Ludovic Bonnet, oui, qui nous invite à faire l'expérience d'un parcours disjoncté où l'onirique visite l'absurde. La salle est envahie de poutres de bois brutes verticales qui suggèrent un chemin dans une forêt où l'industrie a laissé sa trace. En marchant sur les matelas, on actionne une panoplie d'objets de consommation inutile, tels que des canards et des fleurs en plastique, des tubes de caoutchouc, des faux poissons, des guirlandes décoratives. Chaque élément s'actionne, virevolte dans un joyeux tintamarre de sifflements, de flûtes, de clapotis. Alors, sous un aspect ludique, on trouve un commentaire sur la consommation frénétique, oui, qui endommage la nature. Et dans la salle au fond, il y a un grand haut-relief laqué et aussi plusieurs cibles sur papier de verre qui montrent une autre facette de ce créateur de 40 ans connu pour les œuvres publiques.
Oui, surtout, oui, reconnu pour ses œuvres d'art public, oui. Mais il y a des petites œuvres aussi qui sont exposées, hein, Pierre-François Ouellette, Pierre?
Oui, les cibles sur papier de verre, oui.
OK. Oui, ça semble vraiment toute une invitation, quoi. C'est inhabituel pour Pierre-François Ouellette d'offrir ces lieux à
plus les... C'est le genre d'exposition qu'on voit dans les centres d'artistes, mais très rarement dans une galerie commerciale.
Ben oui, je suis étonnée. Il faut y aller.
Alors, on se dirige à Griffintown pour visiter la galerie Blouin Division. Oui. Au 2020 rue William, dans l'édifice de l'Arsenal. Alors, en plus des nombreux artistes de la galerie qui sont accrochés sur les murs, on découvre 9 huiles et acryliques de l'artiste britannique Holly Epp, que je ne connaissais pas.
Moi de même.
Des grands formats de 180 par 200 cm. La plupart proposent une figuration près de la... Ça ressemble un peu à des bandes dessinées ou des illustrations de contes pour enfants. Les couleurs sont charmantes et appliquées parfois en aplat et d'autres fois avec des dégradés de couleurs. Et ça propose une profondeur étonnante dans l'espace des tableaux bidimensionnels. On m'a dit que tout a été vendu très rapidement dans un court laps de temps. Les autres salles sont occupées par de très grandes acryliques sur toile d'environ 213 par 152 cm de la Canadienne Wanda Coupe. D'ailleurs, elle est la cousine de Holly Epp, m'a-t-on dit, mais avec une différence d'âge. Et Wanda Coupe, elle est reconnue pour les compositions dépouillées de paysages ou d'éléments d'architecture, d'une très grande maîtrise de couleurs qui se fondent l'une dans l'autre. Alors, ça en est conduit souvent dans un état méditatif où l'esprit flotte dans une atmosphère qui suggère l'infini. Il y a au total 18 toiles qui ont été exécutées entre 2019 et 2021. Donc, une production assez considérable. Alors, on a déjà vu de ces toiles, entre autres, à la galerie de l'UQAM, dans une exposition collective. Oui. Et elle expose aussi souvent à New York. Oui. Alors, une artiste dont les tableaux sont assez chatoyants, disons.
Oui, et que c'est une artiste que tu suis de près, hein, Pierre?
Tu ne rates pas ses expositions. Bien, ce dépouillement et en même temps une certaine, on peut dire, sensualité par le choix des couleurs qu'elle fait. Elle a rajouté cette année des tableaux d'une seule couleur avec un X noir. Alors, c'est assez étonnant par rapport à sa production habituelle. Mais on m'a dit que ce sont des choses qu'elle a vues en visitant certaines forêts en Californie, où à l'entrée de la forêt, on a ces X probablement pour indiquer aux visiteurs de faire attention à la nature.
Bon, c'est bien pensé, mais il ne reste malheureusement que 2 semaines pour voir cette exposition-là.
Oui, c'est jusqu'au 15 mai.
Oui, alors allez-y, cher auditoire.
Oui, c'est vraiment agréable à visiter cette belle galerie Division.
Oui, et pour découvrir un nouvel artiste, en tout cas un artiste moins connu ici, Holly Hepp.
Oui, qui est britannique, qui vit à Londres, je crois, actuellement.
Oui, et qui fait place à des personnages, hein?
Oui, de bande dessinée. Des personnages qui, comme je dis, ressemblent à des personnages de bande dessinée, voilà. Ou des dessins de contes d'enfants. Donc, il y a un côté un peu ludique dans la présentation du sujet, mais une grande maîtrise au niveau de la peinture elle-même.
Oui, merci. Merci pour cette suggestion, Pierre.
Alors, on entre par la suite dans les salles de l'Arsenal, où deux artistes sont présentés. D'abord, il y a Véronique Duplain,
oui.
Qui est une artiste multidisciplinaire en résidence.
Très fantaisiste.
Qui a entrepris un véritable marathon de photographier 28 selfies pendant 28 jours du mois de février. Mais là, quand on parle de selfies, là, ce sont de très grands formats d'images. Elle a réalisé, en réalité, des mises en scène très élaborées, chacune dans un décor différent, et le tout dans un esprit humoristique et esthétique aux couleurs vives. Dans chaque selfie, selfie, l'artiste est en mouvement. Elle est toujours vêtue de robes assorties et on voit son placard qui est installé avec de multiples robes de toutes les couleurs. Et alors, c'est un placard très bien fourni. Et ces autofictions photographiques dévoilent des univers fantaisistes très féminins où l'homme est totalement évacué. Il y a une projection de vidéo qui montre les coulisses de ces mises en scène avec tout l'aspect technique de ces réalisations, le maquillage, les costumes, les éclairages et aussi l'éditorial qu'elle porte à travers ses œuvres. Vraiment un travail intéressant, très très unique. Je n'ai pas vu d'artiste qui présentait des choses semblables. Et tous les décors sont installés en réel. Donc, on peut soi-même se faire photographier ou se faire des selfies dans les mêmes décors qu'elle a utilisés pour elle-même.
Oh, c'est une bonne proposition, ce Pierre. C'est
oui.
Très amusant. Et c'est l'aboutissement. C'est une artiste autodidacte, mais cette exposition-là est l'aboutissement d'une longue résidence qui a été extensionnée à cause de la pandémie.
Oui, tout à fait.
Oui.
Et réaliser ces 28 selfies en 28 jours, c'est vraiment un tour de force.
Absolument.
Elle a dû travailler de nombreuses heures chaque jour, probablement avec un sommeil très écourté.
Oui, oui, absolument. Et je me suis rendue au mois de février, juste avant la pandémie, elle faisait son vernissage. Ça ne devait pas durer aussi longtemps, cette exposition-là. Ça devait être quand même une certaine durée. Est-ce que tu es au courant jusqu'à quand dure cette exposition-là? Moi, j'ai pas vu de date.
Non, moi non plus, oui. Mais c'est possible que ça se termine ce week-end. Il faudrait vérifier sur le site, là. Mais dans le communiqué, il n'y avait aucune date finale de cette exposition.
Alors, cher auditoire, n'allez pas avoir une stratégie pour vous faire sortir d'urgence de votre domicile, mais peut-être un coup de téléphone nous permettrait peut-être de vérifier.
Ou sur le site.
Mais je n'ai pas vu. Il faudrait téléphoner.
Ah oui,
alors, on va essayer de le mettre sur la page Facebook en téléphonant après l'émission. Merci, Pierre.
Alors, finalement, on entre dans une salle obscure pour les sculptures de l'artiste français de réputation internationale Jean-Michel Autoniel, qui occupe de façon très théâtrale le centre de l'espace de cette salle. Alors, on peut y voir 14 sculptures en verre miroir,
oui.
Qui réfléchissent toute la lumière des projecteurs. Alors, ça ressemble un peu à un podium pour les défilés de mode.
Oui, c'est magnifique.
Alors, il s'agit, pour les œuvres d'Otoniel, on peut dire de chapelets de boules de verre, un peu comme des colliers de perles, mais en très grand format, qui propose une interprétation des nœuds sauvages. Oui. Ça, c'est une référence au travail du mathématicien mexicain Obin Arroyo, oui, qui a élaboré la théorie des reflets, qui révèle une possibilité de près de 1 million de nœuds. Alors évidemment, on entre là dans le monde de la haute mathématique que je ne connais pas vraiment, mais c'est la base du travail qui est présenté par Otoniel à l'Arsenal. Alors, il y a 9 nœuds de verre qui sont suspendus du plafond et 4 qui sont autoportants, c'est-à-dire qui semblent flotter sur une plateforme qui est composée de centaines de briques de verre argentées et bleutées. C'est vraiment magnifique, oui, à l'œil. Oui. Et l'ensemble crée une sorte de calligraphie lumineuse très séduisante et décorative. Alors, il faut aussi visionner la vidéo.
Oh oui, ça
c'est d'une vingtaine de minutes et qui montre d'abord l'équipe qui travaille avec l'artiste sur les multiples projets d'œuvres publiques qu'il réalise un peu partout dans le monde, oui, dont celle du Musée du Louvre à Paris et aussi les sculptures qu'il a conçues pour les fontaines du Jardin de Versailles. Mais surtout,
oui,
les 114 sculptures fontaines inspirées de la calligraphie arabe pour le Musée national du Qatar, dont l'architecte est Jean Nouvel, qui lui s'est inspiré de la Rose des Sables, un bâtiment d'une beauté incomparable et époustouflante. Oui. C'est vraiment absolument magnifique et c'est un bassin d'eau qui encercle le bâtiment où Jean-Michel Otoniel a déposé ses guirlandes de perles de verre tout autour qui forment véritablement une calligraphie arabe. Alors, c'est tout à fait magnifique comme œuvre. Mmh. Et pour ces deux expositions, il y a quand même des frais d'admission de $15. Ah. Alors, et c'est ça, il faut vérifier là, pour la finale de ces deux expositions.
Oh, Jean-Michel Otoniel, c'est bien indiqué sur le site, Pierre, c'est jusqu'à demain.
Demain,
alors,
bon.
Oui, il faut y aller soit aujourd'hui ou demain pour apprécier cette œuvre miroitante de Jean-Michel Otoniel et ce film qui démontre bien toute l'envergure internationale de l'artiste. Hein. Alors, c'est jusqu'à demain.
Et le Musée des Beaux-Arts a déjà acheté un an, je crois, ou deux, là, dans le nouveau pavillon. On peut voir dans la cage d'escalier une de ses œuvres qui est suspendue.
Oui, et il y a eu quand même, dans un passé récent, je pense que tu l'avais vu avec moi, l'exposition au Carré, hein, au Musée des Beaux-Arts de Montréal. On avait vu une exposition de Jean-Michel Otoniel,
oui, en effet,
au Musée,
oui,
des Beaux-Arts. C'était aussi très intéressant. Alors, il y avait aussi le son. Il intégrait le son dans ses œuvres, alors... C'est intéressant. Bien, merci beaucoup, Pierre. Donc, est-ce que il y a d'autres suggestions à faire? Mais je pense que le public n'aura pas assez de la fin de semaine pour faire toute cette tournée.
Je pense qu'avec ces 8 expositions-là, il y a de quoi se déplacer allègrement.
Oui, tout à fait. Alors, mais pour la plupart, Pierre, elle se termine le 30, à la fin mai.
30 mai, oui, pour, oui, les expositions sur le plateau Mont-Royal.
Sur le plateau Mont-Royal, et puis à Pierre-François Ouellet, tout ça se termine pour la... et ainsi que, oui, au 30 mai, Blue Wind Division à la mi-mai, mais si vous voulez vraiment aller voir Jean-Michel Otoniel, ainsi que la galerie Michel Goulet, la galerie Simon Blais, faites vite, ça se termine en fin de semaine.
Oui, Michel, c'est aujourd'hui même à 17h.
Oui, pour le Simon Blais, et demain jusqu'à demain pour Jean-Michel Otoniel. Merci beaucoup, Pierre Archambault, pour cette tournée, vraiment, d'avoir vu autant d'expos pour nous. Merci, passe une excellente fin de semaine.
Au plaisir.
Bon repos.
Vous écoutez le magazine radio In Situ sur Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.
Forte de plus d'un siècle d'expérience, la maison Urgel-Bourgie-Atos a su, au fil des ans, s'ajuster à une société en constante évolution. Afin de vous permettre d'immortaliser vos souvenirs, Urgel-Bourgie-Atos a conçu Scripta, un logiciel d'utilisation facile vous permettant de résumer en mots, photos, vidéos et chansons l'être cher, ce qu'il fut, ce qu'il fit, l'empreinte de sa vie. Urgel-Bourgie-Atos voudrait aussi témoigner son soutien aux artistes visuels durement éprouvés par la pandémie. Urgel-Bourgie-Atos pourrait ériger un monument dans sa mémoire. Du 3 au 29 mai, Georges Laoune Opticien vous convie à sa boutique du 1396 rue Sherbrooke-Ouest pour son Salon des indépendants 2, organisé par le professeur Norman Cornett et placé sous la présidence d'honneur de John Garth Haywood. L'exposition regroupe des œuvres de 8 artistes. Pendant ce temps-là, à la boutique du 42 rue Saint-Denis, vous pourrez voir Ego Portrait 2021, Première Vague 2020 et autres trésors, une exposition solo de Bourgeois. Georges Laoune Opticien, un nouveau regard sur les arts visuels.
Fall.
qu'on vient d'écouter une chanson prétanière, fort inspirée, file peau, hein, comme une plume. Qu'est-ce que c'est magnifique, que de belles paroles. Alors, je joins avec grand plaisir Lila Maître, qui a fait une autre tournée cette semaine pour nous dans un autre lieu qui regroupe plusieurs galeries, la Petite Italie et ses environs. Alors, Lila, est-ce que tu es là?
Oui, bonjour Chantal.
Oh, monsieur, je suis congé de problèmes techniques, c'est très bien. Alors Lila, tu as visité cette semaine la galerie Never Apart, Robert Poulain, la galerie La Certe. Merci de nous présenter ces expositions que tu as sélectionnées.
Oui, oui. Ben, c'était un plaisir d'aller voir ces différentes expositions.
Oui.
Comme tu l'as dit, j'ai commencé par voir Never Apart, donc la galerie, avec son exposition printanière, donc son programme printanier qui est jusqu'au 26 juin. Et en fait, dans cette exposition, on pouvait voir donc plusieurs artistes qui utilisaient donc plusieurs médiums différents. Il y avait de la photographie, il y avait de la sculpture, de l'installation. Donc c'est vraiment une exposition diversifiée. Et avec beaucoup d'artistes aussi issus de la diversité.
C'est ça,
et,
oui.
et aussi de la communauté LGBTQ.
C'est la particularité de ce lieu de diffusion, hein?
Mm-hmm, oui. Exactement. Oui. Donc le premier artiste qu'on pouvait voir, c'était Preston Buffalo, avec son exposition Digitizing Indigenity.
Oui.
Et donc lui, il fait une réflexion artistique donc sur son statut d'artiste autochtone et queer. Et donc il a utilisé plusieurs médias. Donc il y a notamment la photographie avec il a fait des grands tirages donc de sa communauté qui est donc Maskawasis. Donc lui, il est à l'ouest du Canada. Et donc dans ces photographies, par exemple, on va voir des membres de la communauté, mais on voit aussi surtout beaucoup la nature qui est vraiment très présente. C'est des photographies en noir et blanc. Et il a aussi utilisé l'installation multimédia avec une projection ou un paysage avec des bisons. Et aussi la sculpture. Et donc dans ces sculptures, il a repris des objets donc des communautés autochtones. J'ai par exemple été marqué par les sculptures qui représentaient donc des pommes. Et donc ce qui explique l'artiste justement dans cette exposition-là, c'était que c'était des objets donc que s'échangeaient en fait les différentes communautés. C'était des pommes qui en fait deviennent avec le temps deviennent blanches à l'intérieur. Donc on voit ces pommes qui sont rouges et puis à l'intérieur il a représenté donc cette couleur blanche. Il a aussi beaucoup d'autoportraits, donc c'est vraiment, il a vraiment un travail qui est très très diversifié, puis qui justement apporte cette réflexion sur sa communauté. Ensuite, quand on continue
Excuse-moi Lila, mais c'est une première exposition pour cet artiste-là, c'est tout un événement, hein?
Oui, exactement. Donc c'est ça. C'est ça. C'est vraiment un artiste. Moi, j'ai beaucoup aimé son travail.
Oui. Ça. Parfait. Première exposition. Voilà. Voilà. Faut le souligner.
Donc ensuite, dans la deuxième salle, on pouvait voir donc le travail de Daniel Jean, j'espère que je le prononce bien. Donc Unraveling. Donc en fait, ce qu'a fait cette artiste là, c'est qu'elle a confectionné des robes. En fait, elle a fait toute une réflexion sur les troubles de l'anxiété, la dépression, donc un peu les troubles mentaux, et qu'elle a exprimé à travers des robes qu'elle a confectionnées elle-même. Donc il y a plusieurs robes, elles sont magnifiques, les robes. Il y en a par exemple une qui est en satin, mais par contre qui est donc en satin mais froissé, donc en fait c'est justement ce côté froissé de la texture de la robe va rappeler les traces que peuvent nous laisser le lit sur le visage. Ça, c'est vrai quand on se réveille et qu'on a les traces justement de l'oreiller sur le visage, donc ça rappelle justement cette texture là et au mur on pouvait voir les photographies justement des mises en scène avec ces robes là donc avec une danseuse qui symbolisait donc ces troubles de l'anxiété, mais avec donc on voit vraiment le mouvement de la danseuse, puis l'éclairage aussi des photos font que justement tous ces troubles de l'anxiété sont symbolisés et sont représentés à travers ces photographies. Donc c'est vraiment un mélange un peu du théâtre, de la danse, des costumes.
Oh, c'est intéressant. Et c'est une exposition collective qui réunit plusieurs photographes, hein, dont Damien Siqueiros, que je suis de très près.
Mm-hmm. Oui, oui, il y avait beaucoup de photographies, en effet.
Oui.
Donc, par exemple, il y avait aussi au deuxième étage, donc toute une grande salle qui était dédiée juste à la photographie avec Fréquence en or.
Oui.
Qui réunissait plusieurs photographes. On avait Ocean Award, Richard Bernardin, Raphaël, Raïm Nikema et Wade Hudson.
Oui.
Et en fait, ces photographies-là, c'était pour représenter des acteurs et des créateurs importants de la communauté noire.
Ah, ça c'est l'exposition Golden Frequencies, c'est ça? Jusqu'au 26
en
juin.
Français.
Oui. Une célébration de l'art, de la culture noire. Voilà.
Oui, oui, exactement.
Est-ce que c'est intéressant?
Donc là, c'est tout un autre registre.
Oui.
Et en fait, dans cette exposition-là, donc on pouvait voir des portraits justement de différents artistes. Donc j'ai par exemple beaucoup aimé les photographies de Richard Bernardin. Donc il avait fait par exemple un portrait en noir et blanc de Clairel. Clairel, c'est un musicien qui est originaire du Cameroun.
Oui.
Ou encore il a fait un diptyque donc avec une autrice, compositrice, interprète, Dominique Fils-Aimé. Donc dans ce diptyque,
oh, ben oui.
La voix posée, c'est ça, en mouvement. Donc il y a vraiment le symbole du mouvement. Donc c'est vraiment, c'est comme ça réunit plusieurs photographes justement, je trouve que c'était intéressant de voir les différents styles de photographie évidemment, puis tous les différents portraits d'acteurs de cette communauté, de la communauté noire.
Très intéressant.
Mm-hmm. Alors, oui. Et puis le dernier artiste auquel je voulais parler, qui est exposé toujours donc à Never Apart,
oui.
et que j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est Nico Williams.
Oui.
Ouais, avec sa série Chi Ming Wei, et j'espère encore que je le prononce bien.
Oui.
Lui en fait, il a repris des objets en fait du quotidien de communautés autochtones et des communautés rurales, et en fait il a recréé ces objets en tissage de perles.
Ah oui, je crois que nous l'avons vu à la Guilde. Je suis ravie de le revoir à Never Apart. Voilà, c'est magnifique, oui.
C'est vraiment, c'est un travail, moi j'ai adoré. Donc par exemple, on a des objets comme un sac d'épicerie où il a fait plusieurs paquets de feuilles à rouler de cigarettes, donc de la marque Zigzag, ou même il y a un chiffon bleu de cuisine. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'on voit toute la délicatesse du travail. Et puis c'est aussi un travail qui est traditionnel aussi des communautés.
Artisanal, oui.
C'est ça, en reprenant des objets un peu de la vie quotidienne. Et donc c'est un travail qui est vraiment impressionnant, c'est délicat. Plus on s'approche, plus on voit vraiment la précision qu'il a fait justement pour ces œuvres-là. Donc, par exemple, le chiffon, moi de loin, j'avais même pas vu qu'il était en perles, tellement c'était bien fait.
Et c'est toute la signification de la perle hein, pour la communauté amérindienne.
Mm. Oui, exactement. Mm-hmm. Donc qui est pour tous les habits et puis les objets traditionnels. Donc c'est un artisanat traditionnel en fait des communautés autochtones. Donc qui a été réapproprié par Nico Williams.
Oh, ça semble très inspirant. Merci beaucoup de faire cette suggestion. Oui.
Et ensuite, la deuxième... Oui, donc pour cette exposition-là, juste pour préciser que Never Apart, c'est ouvert que le samedi.
Et donc, oui.
C'est mieux d'aller voir donc aujourd'hui ou les samedis.
C'est ça. Alors, si vous êtes plus impatiente que moi de voir particulièrement Nico Williams, allez, précipitez-vous aujourd'hui avant 5 heures. Merci.
Ensuite, la deuxième galerie que je suis allée voir, c'est la galerie Robert Poulain.
Oui.
Donc avec une exposition de Marc Leduc, c'est une toute nouvelle exposition. Quand j'y suis allée, même l'exposition était en montage, enfin elle venait d'être montée, donc je crois qu'elle a même pas encore officiellement commencé, mais en tout cas ça va arriver.
Un artiste que j'apprécie particulièrement qui fait de grands
tableaux, donc on peut voir il utilise donc le médium de la peinture, mais aussi de la gravure sur bois. Et en fait, quand on regarde ce tableau, on peut apercevoir un peu en peinture des paysages ou encore des personnages, des figures figuratives.
Mm.
Mais en fait, en s'approchant plus, il a gravé plein de signes, de symboles, donc avec la gravure sur bois. Donc on a des lettres, on a des chiffres, chiffres, on a des symboles. Donc c'est vraiment tout un langage qui est assez, c'est assez étrange en fait quand on regarde ces tableaux-là. Ça nous amène en fait à nous approcher au plus près des tableaux. Puis en plus, ils ont quand même une très grande taille, ce qui fait qu'on peut vraiment se plonger dans l'univers de cet artiste.
Oui, qui ça donne une certaine forme d'art singulière ou brute, hein?
Oui, exactement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours, mm-hmm. parce que c'est entre l'abstraction, entre un peu la calligraphie. C'est vraiment des tableaux qui sont assez intrigants, je trouve. Et puis en plus, justement, en utilisant tous ces symboles, l'artiste en fait, il a créé son propre langage. Puis nous, ça nous amène un peu à essayer de déchiffrer son langage. On essaye de regarder de déchiffrer les lettres. On essaye ça, mais en même temps, c'est un langage que peut-être on n'arrivera jamais à déchiffrer. Donc c'est vraiment des tableaux. Et puis en plus, la technique aussi de la gravure et de la peinture sont assez intéressantes dans ces tableaux. Il y a les couleurs sont majoritairement un peu dans les ocres et dans les jaunes. Donc c'est ça, c'est une exposition que je recommande. J'ai pas encore les dates précises pour cette exposition. C'est pas encore affiché sur le site internet de la galerie.
Oui, moi de même, je n'ai pas trouvé les dates. Alors, mais on va faire un petit coup de téléphone et puis on va vous fournir les dates après l'émission. Merci.
Et ensuite, la dernière galerie que je suis allée voir.
Oui, et non la, donc, et non la moindre.
C'est juste à côté de la galerie Robert Poulain. Et en fait, donc, c'est une galerie qui a une quantité énorme en fait, d'œuvres d'artistes majoritairement canadiens.
Oui.
Et surtout d'après-guerre. Il y a aussi quelques artistes contemporains, mais la majorité étaient donc des artistes des années 50 à 70 à peu près. Par exemple, on retrouve des œuvres de Jean-Paul Riopel, de Marcel Ferron, on a Jean-Paul Lemieux. Donc on a tous ces artistes, des artistes donc majeurs justement de l'après-guerre. Et donc je pourrais pas parler malheureusement de toutes les œuvres,
pendant
une éternité, il y a vraiment beaucoup d'œuvres, donc c'est pour ça que j'invite les gens à venir voir cette exposition. Mais en tout cas, dans les œuvres qui ont attiré mon attention, il y a oui. par exemple Double 30 de Claude Plousignan. Donc lui, c'est un artiste plasticien, donc qui a commencé sa carrière dans les années 50 et puis qui a continué tout au long de sa vie. Et lui, il s'intéresse beaucoup aux formes géométriques, mais aussi aux aplats de couleurs. Donc c'est beaucoup de l'art un peu abstrait. Et en fait, dans ce diptyque, on voit donc ces deux cercles, deux cercles qui sont posés à côté, les uns de l'un à côté de l'autre. Et en fait, donc il y a des aplats de couleurs qui encerclent comme ça, en circulaire. Et ce qui fait que ça ressemble un peu à deux cibles. Donc c'est comme si c'était deux cibles qui étaient posées les unes à côté des autres. En fait, ça montre un peu tout le travail de cet artiste qui a déjà eu une exposition, exemple, c'était au Musée d'art contemporain, justement sur les diptyques et aussi sur et on voit aussi donc son amour des formes géométriques et de la couleur. Donc c'est vraiment deux œuvres quand même notables de cet artiste-là. Il y a aussi une œuvre, une œuvre qui est sans titre, qui a été produite en 1969 par André Marfing.
Oui.
Lui, c'est un artiste qui est français. Et en fait, sur ce tableau, il a vraiment attiré mon attention, ce tableau-là, parce qu'on pouvait voir donc sur un fond blanc, on voit comme des formes noires se créer, qui ressemblent un peu à des tours. Donc c'est tout ça, c'est avec de la peinture, donc des grandes tours noires qui s'élèvent sur un fond un peu blanc crème. Et j'ai trouvé que le contraste du noir et blanc plus ces formes un peu qui sont pas vraiment géométriques, qui sont entre l'organique parce que c'est pas exactement droit. Ça a été fait à la main. Et puis il y a aussi la texture, il y a une partie du tableau où on voit vraiment la texture de la peinture, où il a fait un relief avec la peinture. Donc ça, ce tableau-là, il m'a vraiment intriguée. Je trouve qu'il nous a vraiment mis un peu dans ce monde, dans un peu un autre monde. Je trouve que c'est un tableau qui est très contemplatif. Ou encore un autre tableau que j'ai beaucoup aimé, qui est cette fois un peu plus une œuvre figurative. C'est un nu sur fond bleu de Jean-Paul Lemieux.
Oui.
On voit une jeune femme qui est torse nu, qui est de profil, sur, donc, comme l'indique le titre, sur un fond un peu bleu clair. Et en fait, cette jeune femme, elle semble regarder quelque chose qui est hors cadre, donc sur le côté. Et c'est un tableau qui a vraiment attiré mon attention. J'étais d'ailleurs avec une amie qui ne connaît pas vraiment en peinture, et elle a beaucoup, beaucoup aimé aussi ce tableau-là. Donc c'est vraiment un tableau attrayant. Il a des couleurs pastel, donc c'est un peu une sensation un peu de douceur, de rêverie dans ce tableau-là.
Toutes des belles suggestions, là.
voilà, c'était la sélection.
Pilier du milieu de l'art visuel et de l'histoire de l'art, parce qu'il faut mentionner, bien sûr, que la Galerie Lacerte est depuis quelque temps le haut lieu d'un nouvel encan. By Dealer, alors il y a toujours un nombre incroyable d'œuvres d'importance à voir, et ça, il se prépare à des encans chaque année. Alors,
commence aujourd'hui.
Un encan qui débute aujourd'hui.
Oui, la vente aux enchères donc commence aujourd'hui.
Oui.
Donc ça se déroule en ligne. Normalement c'est en vrai, mais là à cause de la pandémie, ça se déroule en ligne. Et en fait ça va se durer pendant tout le mois de mai. Donc jusqu'à la fin du mois de mai, il est possible d'aller sur le site et puis de proposer des prix aux enchères pour toutes les œuvres. Il y a le catalogue aussi qui est disponible en ligne. Donc on peut voir toutes les œuvres avec les descriptions.
Merci beaucoup Lila. Est-ce que ça fait le tour de ton exploration de la petite Italie?
Oui, j'avais fait aussi un tour à la galerie COA où j'avais vu la fin d'une exposition de groupe, mais qui a fini maintenant. Mais par contre, à partir du 13 mai, il va y avoir une nouvelle exposition avec les œuvres de Chantal Lantier.
Oui, Josiane Lantier. Oui, excellent.
Oui, Josiane Lantier.
Excellente suggestion.
Une exposition à surveiller qu'il faut aller voir très bientôt.
Oui, à partir de jeudi prochain, il faut pas rater cette exposition. Je pense que deux artistes qui seront en programmation de la prochaine exposition à la Galerie COA. Merci beaucoup, Lila. Passe une excellente fin de semaine et je te recommande d'aller voir des expositions cet après-midi. Il y en a en grand nombre. Et des expositions importantes. Allez voir justement ces expositions sur la liste des événements visuels in situ. Merci beaucoup, Lila.
Merci, Chantal.
Bonne fin de semaine. L'argent ne
fait pas le bonheur. Lancée le 1er mars, la campagne annuelle de financement de Radio Centre-Ville se poursuit jusqu'au 31 mai. L'argent recueilli servira non seulement à soutenir vos émissions préférées, mais aussi à contribuer au projet de vie de la grande rénovation. Dans le cadre de ce projet, nous entendons rapprocher la radio de la communauté en déplaçant nos installations vers le rez-de-chaussée vitré donnant sur le boulevard Saint-Laurent. Cette campagne a été placée sous le patronage de Franz Benjamin et Ruba Gazal, élus sensibilisés à la cause. L'objectif est de 50 000 $. Pour effectuer un don, activez simplement le lien grande-rénovation.org. Donnez généreusement. L'argent ne fait pas le bonheur. Nous, quand on nous dit ça,
on ferait un malheur. Alors, de mon côté, il nous reste quelques instants. J'en suis ravie pour vous présenter deux expositions que je recommande, deux destinations donc recommandées. Tout d'abord, on parlait tout à l'heure de l'exposition d'Alexis Lavoie à la Maison de la culture Claude Léveillé. Pourquoi ne pas compléter la programmation en vous rendant à la salle de diffusion Parc Extension qui fait partie donc de la Maison de la culture Claude Léveillé et qui propose un solo haut en couleur à grand déploiement et imprégné de nature de l'artiste Karine Demers, dont je crois que c'est sa première exposition Maison de la culture, il faut le mentionner. Et cette exposition-là est titrée « Tes mots, mes mains ». Ça se poursuit, vous avez le temps d'aller voir et d'apprécier cette exposition, c'est jusqu'au 15 août. C'est une artiste qui use à profusion de papier et de la technique de l'origami et de la mosaïque traditionnelle qui ont un effet très bénéfique sur l'artiste et ces techniques-là lui ont permis rien de moins que de composer, de surmonter des problèmes de santé tels que le TOC, le trouble obsessif compulsif. Et à la salle de diffusion par extension, donc, Karine Demers présente une série d'œuvres réalisées avec des brochures de théâtre en recourant à la répétition. Alors, l'action de plier à répétition crée un exutoire chez l'artiste à l'anxiété et libère les émotions entravantes. Alors, l'œuvre devient ainsi transformation salutaire et transformation qui stimule l'imaginaire pour le public. Alors, Karine Demers fait aussi un parallèle avec la production artistique théâtrale dans un mot dont on peut prendre une copie à la salle de diffusion. Alors, on peut apprécier sur place donc plusieurs séries d'œuvres. Alors, c'est beaucoup renouvelé, représentant des pour la première une série en particulier des fleurs aux pétales généreuses. Et cette série est titrée aux pétales et aux couleurs généreuses, je vous dirais. Et cette série est titrée « Le temps des fleurs ». Vous avez aussi des carrousels tels des projecteurs de diapositives. On a au moins une bonne dizaine d'œuvres de carrousels et cette série est titrée « C'est carrousels dans ma tête ». Alors, ça réfère à tout l'effet thérapeutique de créer ces œuvres chez l'artiste. Alors, une série inspirée aussi des jardins. Et Karine Demers nous présente de plus une nouvelle exploration qui délaisse la forme ronde très présente chez l'artiste pour celle du carré. Alors, cette série titrée « Retaille et reliure ». Au cœur de l'exposition, une installation de grand format, liane volubile, que l'artiste associe aux lettres, aux mots qui ont pour effet d'ouvrir le dialogue, apaiser et guérir. Alors, le centre du lieu de diffusion est aussi occupé par un carrousel géant. Alors, c'est impressionnant. Alors, c'est une exposition à la fois libératrice et des plus esthétiques que je vous recommande jusqu'au 15 août à la salle de diffusion par extension. Seul problème, c'est pas un lieu de diffusion facile et très accessible, mais vous trouvez facilement grâce aux gardiens de sécurité. Maintenant, Pierre Archambault nous a parlé un petit peu de l'exposition, nous a parlé même beaucoup de l'exposition de Michel Goulet à la galerie Simon Blais et qui se termine malheureusement aujourd'hui, mais fort heureusement que l'exposition de Serge Clément titrée Écran et réseau débute aujourd'hui, se poursuit jusqu'au 19 juin. Alors, en continuité avec sa résidence de création à la Cinémathèque québécoise en 2016-2017, alors que nous avons interviewé le photographe, il en est venu à visionner nombre de films et à créer des fichiers numériques à partir de supports filmiques, recherchant particulièrement les glitches, c'est-à-dire des dérapages numériques. Alors, c'est une série de photos de glitches réunies sous le titre « Écran » et ces photos-là sont accompagnées aussi de photographies récentes, d'images récentes misant sur l'abstraction, l'ambiguïté entre le réel et le virtuel, le vrai et le faux. Alors, 17 photos énigmatiques à souhait à voir à la Galerie Simon Blais jusqu'au 19 juin. Alors, c'est tout pour cette édition de votre magazine Radio In Situ. Hein. Alors, grand merci à mes collaborateurs du jour, hein, Pierre Archambault et bien sûr Lila Maître. Merci aussi à Robert Loca, à la technique. Merci à Radio Centre-Ville et merci beaucoup à vous, chers auditoires, d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve samedi prochain et je vous laisse en compagnie d'une prestation assez spectaculaire de Flore Laurentienne, qui sont aussi en programmation du Festival Santa Teresa qui commence très bientôt. Alors, merci beaucoup. Portez-vous bien. Bonne fin de semaine.